Pierre Cesarini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Clara Nova. On va parler avec vous bien de vos résultats, parce que vous venez de les présenter à l'instant devant les analystes financiers. Il y a eu beaucoup de questions, on y reviendra de leur part. Les résultats annuels, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est finalement cette rentabilité que vous voyez venir?
Non, je pense qu'il y a vraiment trois choses différentes. Il y a une croissance soutenue, c'est un point qui reste important. On reste une société de croissance aujourd'hui. La rentabilité est un point important parce que c'est quelque chose qu'on nous demandait et il était important pour nous de démontrer qu'on pouvait atteindre cette rentabilité, mais qui est liée à la structuration du modèle économique. Et il n'y avait pas de sens à l'avoir plus tôt. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans la vision qu'on peut avoir de nos différents business. Pour moi, le point le plus important reste le potentiel encore devant nous. On a une vision, je pense, aujourd'hui assez fine. On a de vrais résultats aussi bien quantitatif que qualitatif. Et pour moi, le plus important reste encore le potentiel qui est devant nous.
Il y a ces trois activités que vous avez présentées et détaillées. C'était des vrais paris au départ. Il y en a, vous dites, deux qui sont en train de montrer, effectivement, de démontrer leur efficacité. Puis le troisième, on va en reparler. Il en est à ses débuts, même s'il y a beaucoup d'espoir dessus. Aujourd'hui, vous pensez que vous avez une position concurrentielle dans notamment l'activité photo. Vous avez essayé de montrer que vous aviez fait un choix stratégique particulier, vous.
Donc le choix que l'on a fait sur la photo est vraiment un positionnement qui est unique. On a été les premiers au monde à amener le concept de l'impression qui existe depuis 20-25 ans dans le monde de l'Internet. Nous avons été les premiers à l'amener dans le modèle économique du mobile. Donc le choix extrêmement structurant que l'on a fait il y a 4 ans a été d'avoir un modèle économique lié au mobile, c'est-à-dire à la fois simplicité et prix, qui est radicalement différente de tout ce qui se faisait jusqu'à présent sur le web, où l'idée était vraiment de vendre un produit cher à haute marge. On a fait un choix d'avoir un produit à faible marge, mais sur un volume important, et d'être capable derrière de monétiser ensuite. Donc c'est un choix que nous avons globalement été les seuls à faire il y a 4 ans. Ça a été le pari en lançant Planet Art, qui je pense aujourd'hui est un pari payant.
Et avec tout de même pour vous, pays par pays, vous regardez comment se développe le pays. Vous avez parlé de l'Allemagne en disant y a une façon de faire en Allemagne qui n'est pas la même, par exemple, qu'en France ou dans d'autres pays. Et donc, en limitant l'engagement financier au départ, en étant sûr quand vous commencez à investir, on va dire.
L'intérêt du modèle économique de Planet Art, c'est qu'il est extrêmement centralisé dans notre capacité à pouvoir lancer un nouveau business, que ce soit en Allemagne, mais que ce soit en Inde. Il ne demande pas beaucoup d'investissement et la force du modèle économique du mobile vous permet d'avoir une analyse très fine pour peu d'investissement. Donc on va analyser en mettant un peu d'argent à travers Facebook le plus souvent pour savoir la dynamique économique qu'on peut avoir en Allemagne versus en Inde. Et on a quand même maintenant un facteur d'échelle, d'expérience qui date depuis 4 ans. Donc on est capable d'anticiper des évolutions. Donc aujourd'hui, effectivement, la dynamique aux États-Unis n'est pas la même que celle que l'on voit en France ou en Allemagne ou en Inde. Mais on est capable aujourd'hui d'ajuster. Et là encore, toujours de façon centralisée, sans investir beaucoup d'argent.
Concernant AvantQuest et ce positionnement sur la monétisation, sur le trafic Internet, vous nous avez montré la graphique qui n'était pas forcément évident, on va reprendre un peu de recul pour l'analyser. Ce qu'on a quand même compris clairement, c'est que les fameux GAFA dont on parle tous les jours captent une bonne partie de la valeur et que un éditeur de logiciel, s'il reste éditeur de logiciel, finalement il risque de perdre de l'argent. Même vous avez donné le chiffre de 30, quand il fait 35 millions de chiffre d'affaires, ce qui paraît hallucinant, on se dit donc il faut trouver un nouveau système.
Exactement. Donc le constat, mais qui est la réalité de ce qu'a pu vivre AvantQuest sur ces 10-15 dernières années. Aujourd'hui, un éditeur de logiciels de taille moyenne a beaucoup de difficultés à vivre parce qu'essentiellement, les Google et Facebook préemptent, parce qu'ils se sont mis en position de monopole dans la chaîne de valeur, préemptent essentiellement la valeur. Donc du coup, cette nécessité de penser à un modèle économique différent et cette idée de ne pas se voir comme un acteur vertical de logiciels, de e-commerce, de download, mais au contraire, de trouver des sources de monétisation les plus pertinentes possibles, comme on a pu, je pense, le démontrer aujourd'hui, comme on le voit dans la réalité des premières acquisitions qu'on a pu faire.
Voilà, donc il y a eu des acquisitions au Canada. Vous avez dit qu'elles seraient effectivement que dans les comptes dans les prochains mois, hein, bien sûr, et il y aura d'autres acquisitions également dans ce secteur.
Notre vision est vraiment de pouvoir atteindre une masse critique la plus importante possible, le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu du Fernand Reynaud, ça ne veut pas dire grand-chose, mais aujourd'hui, nous avons plusieurs discussions sur d'autres cibles qui sont intéressantes par rapport à notre vision et notre modèle. Après, dès que vous faites des acquisitions, c'est toujours compliqué de savoir à quel moment vous pouvez les finaliser. Mais on a aujourd'hui un premier retour d'expérience extrêmement positif sur les premières acquisitions qu'on a pu faire.
Alors, l'IoT, hein, cet Internet des objets, il y a à la fois beaucoup de fantasmes, beaucoup de chiffres qui circulent. Vous avez dit aujourd'hui, finalement, ce que vous avez mis en avant aujourd'hui, c'est, parce que vous n'avez pas donné de chiffres, il y a des analystes qui vous ont interrogé, vous n'avez pas donné de chiffres, mais c'est de dire que vous aviez cette communauté de développeurs qui était là, et 600 000 développeurs, et que finalement, des grands comptes, des grandes entreprises aujourd'hui commençaient à venir vers votre système.
Donc aujourd'hui, nous avons construit sur ces deux dernières années la plus grande communauté de développeurs IoT. Donc des gens qui au jour le jour utilisent nos produits, nos outils de développement. Plus important, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, on a construit un écosystème qui nous permet d'avoir des retours d'expérience, qui nous permet d'avoir du volume, qui nous permet d'avoir à la fois beaucoup de capteurs, beaucoup de réseaux, beaucoup de développeurs. Et c'est les raisons pour lesquelles des gens comme Semtech, comme Sprint, comme Alibaba viennent nous voir, parce que nous avons été les premiers à construire cet écosystème et avoir aujourd'hui cette capacité de pouvoir déployer des solutions de l'IoT, mais pour tous les jours, qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Et c'est vraiment notre différenciation, on n'en est qu'au tout début. La seule chose factuelle que l'on peut dire, c'est qu'on a effectivement cet écosystème qui est relativement unique au monde, et on a aujourd'hui surtout ces partenariats avec des gens relativement sérieux comme Sprint, Alibaba, Semtech, Dr. Peng, qui nous choisissent pour des raisons qui sont les leurs, mais qui sont quand même réelles.
Alors, le mot de la fin, il y a un analyste qui aimerait bien vous aider sur la valorisation effectivement de Claranova, mais il dit bah, vous ne donnez pas de chiffres, donc c'est compliqué de effectivement sur les perspectives. Qu'est-ce que vous lui avez répondu?
Aujourd'hui, il y a des choses simples et des choses compliquées. Je pense que l'histoire d'un Planet Art, les chiffres, si on regarde ces 4 dernières années, sont assez parlants et sont finalement assez facilement extrapolables. Ce que l'on disait, c'est qu'on a maintenant vraiment une position établie sur deux pays que sont l'Angleterre et les US. On a deux produits entre le livre et la photo qui sont bien établis. Aujourd'hui, notre développement, c'est vraiment d'aller à la fois beaucoup plus de produits sur beaucoup plus de pays et de pouvoir en maîtriser la croissance. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est pas très compliqué pour analyse de pouvoir extrapoler ce business. Sur la partie AvantQuest, effectivement, puisqu'on parle d'acquisition externe, c'est plus difficile, mais on a quand même donné des chiffres sur des niveaux significatifs. De nouveau, ce que l'on dit, c'est qu'on aimerait atteindre cette barrière des 100 millions d'euros, 15% de profitabilité le plus rapidement possible, mais c'est quasiment quelque chose qui n'a pas de limite et essentiellement dépendant de notre capacité de pouvoir acquérir, que ce soit au niveau du deal flow, que dans la capacité de financement. Mais on a, je pense, une vision maintenant forte sur ce qu'on peut aller chercher en termes de taille. Après, bien sûr, MyDevice, qui est un autre sujet, personne ne peut vous donner de vrais chiffres, ni moi, ni vous, ni les analystes, mais pas plus qu'un Sprint ou un Alibaba. On sait que c'est la prochaine très grande révolution. On a aujourd'hui une spécificité sur MyDevice en termes de nouveaux écosystèmes et de partenariats qui, je pense, sont déjà parlants.
Merci beaucoup, Pierre Césarini, d'avoir été avec nous.
Je vous remercie.